Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024. La Fed ne pense pas qu'il sera approprié de réduire la fourchette cible tant qu'elle n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue durablement vers les 2%. C'est un peu la base du communiqué de presse qui a été fait hier soir alors que tout le monde était en train de chômer son 1er mai. Encore une fois, nous nous retrouvons le lendemain d'une annonce majeure que nous attendions avec impatience et on se demande si ça valait bien la peine d'en faire tout un pataquès depuis deux jours. En résumé, Powell a décidé de ne rien faire mais il reste dovish quand même et ça, c'est un soulagement. J'utilise le mot soulagement parce que pour être franc, lorsque l'on regarde les chiffres économiques qui ont été publiés ces derniers jours, voire ces dernières semaines, on se disait qu'il y avait tout de même un gros risque de voir la Fed tourner la veste et laisser la porte ouverte à une éventuelle hausse des taux, mais que nenni. Et c'est même tout le contraire, le patron de la Fed a été très clair, il n'est pour l'instant pas question d'envisager une hausse des taux pour freiner cette vilaine inflation qui fait peur à tout le monde. Alors je sais pas si c'est de l'entêtement ou c'est parce qu'il est simple, il sait simplement ce qu'il fait, mais les intervenants ont pu respirer un peu mieux après ces déclarations. C'est vrai que passer de 6 à 8 baisses de taux en 2024 à une hausse de taux en été, ça n'aurait pas été simple à digérer, mais la déclaration d'hier soir a permis au marché de souffler un peu et de relâcher la pression. Même si rien n'est terminé, et même si l'on peut encore s'attendre à de nouveaux retournements de situation ces prochains temps, tellement la Fed ne donne pas trop l'impression de savoir où elle va, jetons d'ailleurs un œil à ce qui a été dit hier soir et ce qui nous servira de feuille de route jusqu'au prochain chiffre économique important, c'est-à-dire vendredi soir avec les non-farm payrolls. Tout d'abord, au point 1, M. Powell a déclaré qu'il était peu probable que la prochaine mesure de politique monétaire soit une hausse. Le marché a donc entendu que les taux ne montraient pas, mais il a refusé d'entendre que ça n'était pas une négation totale. Si on relit lentement la phrase, on se rend compte qu'il y a toujours une éventualité quand même, parce que peu probable ne veut pas dire impossible. Mais peu importe, c'était la meilleure nouvelle de la soirée. Ensuite, lorsque l'on décortique le communiqué, on y apprend que Jerome Powell ne croit pas que nous soyons en présence d'une stagflation. Bon, il n'est pas complètement certain non plus, mais on peut partir du principe qu'il a des informations que nous n'avons pas et qu'il doit forcément avoir raison. Mais de l'autre côté, on peut aussi se rappeler que c'est le même Jerome Powell qui nous avait dit que l'inflation était transitoire et sous contrôle. Comme ça, si on avait un doute sur sa performance passée, au moins c'est clair. Au point 3, le patron de la réserve fédérale a fermement expliqué que les élections de 2024 ne font pas partie de la réflexion de la Fed. Il serait bon qu'il envoie un mémo aux deux candidats en présence parce qu'au vu des commentaires des deux clowns en question, il compte quand même pas mal sur ce que va faire la Fed pour marquer des points. Même s'il n'a pas d'ordre à recevoir du grabataire et encore moins de la part du futur taulard, on peut quand même se poser des questions sur l'impartialité de la chose. Après, le gardien des clés des taux d'intérêt s'est laissé une sortie de secours en disant que l'on assistait à un affaiblissement inattendu du marché du travail. Cela pourrait éventuellement peut-être entraîner une baisse des taux d'intérêt. Cette phrase-là, c'est la pilule magique, hein, c'est le moyen de baisser les taux quand même sans que l'on puisse ou que l'on ose lui reprocher quoi que ce soit. Ah oui, j'ai baissé les taux alors que l'inflation faisait encore rage, mais c'était pour sauver le soldat emploi du ralentissement. Autant vous dire que du coup, les chiffres de vendredi seront encore plus importants qu'avant, parce qu'à la moindre faiblesse du genou, ça va spéculer sec sur une baisse des taux. Et à ce propos, les chiffres de l'emploi de l'ADP étaient supérieurs aux attentes hier, et les JOLTS étaient un peu plus faibles. Je pense néanmoins que cette faiblesse n'est pas encore suffisante, ou assez suffisante, on va dire, pour que l'on hurle au sauvetage par la baisse des taux. Point 5, la Fed n'est pas satisfaite d'une inflation de 3%, sans blague, ça fait des mois qu'ils nous bassinent avec leur inflation à 2%, tu m'étonnes quand l'inflation te refait un refus d'obstacle à ça du but et que ça repart dans l'autre sens, tu m'étonnes que le mot satisfaction ne soit pas le premier qui te vienne en tête, comme disait Mick Jagger, I can't get no satisfaction. Point 6, en conclusion de ce meeting du mois d'avril, Powell nous a dit qu'il ne savait pas exactement combien de temps il faudra pour commencer à réduire les taux d'intérêt, mais il a donné l'impression d'avoir encore un espoir de le faire en juillet. Il est d'ailleurs le seul à croire que c'est encore possible. Depuis hier soir, l'ensemble des analystes mondiaux et autres économistes sont tous sur la brèche. Toutes les méthodes sont utilisées et utilisables pour essayer de trouver ce que sera le prochain move de la Fed et quand il se produira. Pour l'instant, tous les avis sont dans la nature, et en dehors du fait que Powell a tout de même démontré qu'il était encore du côté des colombes, même si par moments je dirais qu'il est plutôt du côté des pigeons que des colombes, nous n'avons pas appris grand-chose de plus, si ce n'est que les gars de la Fed ont tout de même voté en faveur d'un ralentissement du rythme auquel elle réduit son bilan, ce qui peut être considéré comme un signe d'assouplissement de la politique monétaire. C'est d'ailleurs pour cela que les rendements du 10 ans étaient en baisse hier soir. On est quand même passé de 4,69 à 4,62 et le marché des actions explosait de 0,23% sur le Dow Jones pendant que le reste finissait quand même en baisse de 0,3%. Et pour terminer, la Fed n'a pas publié de dot plot lors de ce meeting-là. La dernière fois qu'il l'avait fait, en mars, Powell et ses potes pariaient sur 3 baisses de taux en 2024. Ils ont probablement préféré ne rien dire pour ne pas se ridiculiser. Selon la rumeur, ils donneront à nouveau leur vision en juin. On est impatients. On va donc dire que la Fed est toujours dovish, même s'il faut le dire vite, que Powell croit toujours que les taux peuvent baisser, et on va dire que tout est sous contrôle, parce que c'est quand même mieux de rester optimiste. En tous les cas, sur l'annonce d'hier soir, les marchés sont montés, puis se sont dégonflés en direction de la clôture, mais ensuite, on a eu le temps de relire tout en détail ce matin. On a l'air plutôt content de ce qui a été dit, d'où le fait que les futurs sont en hausse de 0,5% ce matin, à la limite de l'emballement euphorique. Ce matin, les futurs sont donc en hausse, le Nikkei ne fait rien, Hong Kong monte de 2% à cause du marché immobilier, et la Chine est dans le coma. Le pétrole est en baisse à 79,49, ça va favoriser une baisse de l'inflation, même si nous, à la pompe, on verra pas la différence comme d'habitude. Parce qu'il faut tout de même rappeler que lorsque le baril était à plus de 120 en 2022, le litre d'essence était 30% moins cher qu'il ne l'est aujourd'hui qu'un baril à 79. Alors si vous avez l'impression que l'on se fout de votre gueule chaque fois que vous faites le plein, c'est pas une impression, c'est un état de fait. L'or est à 2329 et le bitcoin s'enfonce toujours plus. Le coup sûr qui devait aller à 150 000 $ se traite à 57 000 $. Mais Standard Chartered, qui a un target à 150 000 $ justement, a prévenu que le bitcoin pourrait passer par les 50 000 avant de remonter à 150. N'hésitez donc pas à vendre la grand-mère pour acheter du bitcoin le moment venu. Ça serait ballot de rater l'occasion. Du côté des histoires à connaître pour briller à l'apéro du jeudi soir, on notera qu'Amazon est monté 2% hier soir, même avec ses chiffres stratosphériques, n'a pas suffi. Hier, l'ensemble du secteur intelligence artificielle s'est fait déglinguer à cause des chiffres d'AMD et de Supermicro. Même Nvidia perdait près de 4% dans la foulée. Mais hier soir, Qualcomm a annoncé des chiffres de folie qui font dire que ce serait peut-être la boîte que l'on a sous-estimée en termes d'IA. Le titre prenait 4% hier soir. Carvana a surpris tout le monde avec des chiffres positifs. Le titre prenait 30% hier soir. Pfizer a révisé ses objectifs annuels à la hausse et monté de 6%. Et puis DoorDash a publié des chiffres tout pourris, mais ont annoncé une guidance meilleure. L'action plongeait tout de même de 14% parce qu'on vous livre quand même de la bouffe pas bonne et froide dans des boîtes en carton pas belles. Etsy perdait 12% et CVS s'est également vautré de 17%. Et le Baron s'estime que ça n'est pas encore l'heure d'acheter. Autrement, l'ensemble des médias financiers saluent le fait que Powell a presque exclu la possibilité de monter les taux encore plus haut. Et pendant ce temps, une société de recherche indépendante a découvert qu'aux USA, il y a 282 banques régionales qui étaient au bord du gouffre, coincées entre des pertes obligataires non réalisées et la problématique des taux un peu trop élevés. Pour l'instant, tout le monde s'en fout, mais on en reparlera sûrement. Et puis, le plus gros bullish de Wall Street, Tom Lee, estime que la citation « Sell in May and go away » ne veut plus rien dire et qu'il faut passer à autre chose puisque statistiquement, le mois de mai n'est pas si mal que ça, en fait. Pour ce qui est des chiffres du jour, il y aura le CPI en Suisse, qui sera presque aussi intéressant que la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, puis le Trade Balance aux USA et le Jobless Claims, mais c'est encore une fois du côté des sociétés que ça sera intéressant, puisque ce soir, c'est le soir d'Apple, mais avant, il y aura quand même Moderna, Novo Nordisk, et puis ce soir, il ne faudra pas non plus négliger Coinbase. Pour le reste, je m'en vais vous souhaiter une belle journée de pluie, bien que depuis hier, nous étions censés faire ce qu'il nous plaît, mais que là, tout de suite, ça marche pas très fort. On se retrouve, on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures et pour décortiquer les chiffres d'Apple qui vont sûrement nous changer la vie, comme le meeting de la Fed d'hier. Belle journée à tous et à demain.